Il est 11h30, Infomag, Nicolas Legrand.
15 à 20 points de PIB perdus depuis le 13 mai, selon la présidente du MEDEF, Mime Sidelek, qui estime que la reconstruction du tissu économique sera longue. Elle a tiré la sonnette d'alarme à Paris auprès des responsables politiques, mais aussi économiques, et elle était notre invitée ce matin, extrait dans ce journal. Dans cette édition également, on s'intéressera à la situation dans le Nord. Les feux de brousse se sont multipliés ce week-end, alors que la sécheresse sévit. À l'étranger, une enquête ouverte pour tentative d'assassinat présumé contre Donald Trump. Un homme pointait une Kalachnikov sur l'ancien président pendant qu'il jouait au golf. Le candidat à la Maison-Blanche est sain et sauf. L'actualité politique nationale, le RN en campagne permanente. Le parti de Jordan Bardella compte occuper le terrain alors qu'il souhaite de nouvelles élections législatives d'ici un an. Bonjour et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité, un coup d'œil au Mac des Sports qu'on retrouvera en fin de ce journal. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Et au menu notamment du football.
Oui, les leçons à tirer de la quatrième journée de Ligue 1, notamment le PSG Dembélé en forme avant d'attaquer la Ligue des Champions après un succès sur un autre qualifié européen, Brest battu 3-1. Les Nantais de Comboiré sont cinquième après avoir laissé échapper des points, battu par Reims 2-1. L'OM s'impose sur Nice 2-0 et garde la cadence, toujours deuxième du championnat de France avant qu'Adrien Rabiot ne rentre dans la danse.
La Formule 1 avec les McLaren en forme pour cette deuxième partie de saison.
Entre un Lando Norris qui peut encore tenter de gagner la couronne, un Oscar Piastri qui signe sa deuxième victoire en carrière à Bakou, l'écurie britannique est sur une autoroute pour succéder au Red Bull, premier signe du destin. L'écurie autrichienne a perdu aujourd'hui la place de leader du classement des constructeurs au profit des McLaren qui en prennent les rênes.
Et nous verrons également l'essentiel des résultats en Nouvelle-Calédonie et puis nous parlerons de l'actualité de la boxe sur le territoire.
Notre invité sera Christophe Savoie, cadre technique du comité régional. L'occasion d'évoquer les stratégies des clubs de boxe et des instances de la discipline avec notamment des actions lancées auprès de la jeunesse pour promouvoir le noble art.
Rendez-vous donc en fin de ce journal. Après un séjour à Paris qui lui a permis de rencontrer de nombreuses personnalités politiques et économiques et à peine descendue de l'avion, la présidente du MEDEF-NC, Mime Sidelek, était notre invitée du matin à 7h30, Elisabeth Noir.
À tous ses interlocuteurs, Mime Sidelek a dressé un portrait alarmant de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Mais elle est rassurée par l'attention des responsables politiques qui, quel que soit leur bord, sont convaincus qu'il faut aider le territoire sur le plan économique. Pour autant, si la présidente du MEDEF-NC salue l'implication de Bruno Le Maire dans le dossier, elle souhaite qu'il y ait une personnalité de plein exercice dédiée à 100% au dossier calédonien au sein du prochain gouvernement. Elle a également participé aux rencontres des entrepreneurs de France organisées par le MEDEF national. Son président Patrick Martin lui a même rendu un hommage appuyé, un soutien très utile pour les entreprises calédoniennes.
Le soutien du MEDEF au national, il est très important dans ce dossier, notamment parce qu'il porte notre voix sur des questions qui concernent par exemple les assurances, qui concernent également parfois le secteur bancaire avec les grandes fédérations nationales. Ça peut être également le cas au niveau du BTP. Et évidemment, Patrick Martin, dans l'exercice de ses fonctions, est au contact quasi quotidien avec le gouvernement. Donc, je dirais que l'hommage qui a été rendu, c'est un hommage qui est pour tous les entrepreneurs calédoniens et ça a été extrêmement touchant parce qu'il y a une solidarité des entrepreneurs au niveau national pour ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc, Patrick Martin est extrêmement informé, donc le président du MEDEF est extrêmement informé de ce qui se passe ici et peut relayer les messages autant qu'il le faut à Paris.
L'un des gros dossiers sur lequel peut aider le MEDEF national, c'est celui des assurances, un dossier très problématique pour les chefs d'entreprise calédoniens qui se heurtent à des lourdeurs et à des lenteurs.
Aujourd'hui, on voit que ce qui bloque un peu, c'est la remise des rapports d'expertise définitifs. Moins de la moitié ont été rendus après 4 mois de début de crise. Le message, c'était de dire aux assureurs, ça ne va pas assez vite, il faut accélérer sur la remise de ces rapports qui permettent de débloquer en fait les indemnités. Aujourd'hui, moins de 6% des indemnités d'assurance ont été versées effectivement aux entreprises. C'est trop peu, il faut aller beaucoup plus vite. Le deuxième point, c'est dans quelles conditions est-ce qu'on va se réassurer? Et là, très clairement, le message est plus préoccupant parce que la garantie émeute, hein, c'est qui permettait d'être couvert dans le cas d'événements tels que ceux qu'on vient de vivre, elle disparaît en Nouvelle-Calédonie, mais pire, elle risque de disparaître partout dans l'outre-mer, voire même au national, parce que la France est particulièrement exposée au risque émeute et aujourd'hui les assureurs hésitent tout simplement à assurer ce type de sinistre.
Et dans ce contexte d'effondrement de l'économie calédonienne, l'aide de l'État est indispensable, reconnaît Mime Sidelek, mais tout le monde doit participer à la relance et à la refondation.
Les élus calédoniens ont une responsabilité majeure dans le fait d'engager un certain nombre de réformes, et notamment sur la réduction des dépenses. Je dirais que, oui, nous avons besoin d'énormément de moyens, mais nous avons aussi besoin de réformer notre système économique et social et administratif de façon à réaliser un certain nombre d'économies. Le MEDEF est engagé avec NCECO dans ses travaux. Nous y travaillons avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment dans le cadre du plan S2R. Mais l'idée, c'est évidemment de sauvegarder l'économie, et là, l'État va jouer un rôle majeur, mais aussi d'accompagner à son redressement via des réformes à réaliser.
Et plusieurs réunions ont déjà eu lieu. Dès mercredi, le MEDEF-NC transmettra ses recommandations au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais Mimsy Dele insiste aussi sur la nécessité d'une démarche unitaire la plus large possible avec tous les partenaires sociaux. Elle souligne également la nécessité de travailler avec l'État pour améliorer les dispositifs existants.
L'État réagit très vite. Après, évidemment, c'est jamais assez. Et très clairement, on demandait plus. On se rend compte aussi que certains dispositifs ont nécessité d'être aménagés. Par exemple, nous sommes en phase d'obtenir l'abaissement, par exemple, du seuil de déclenchement du fonds de solidarité en fonction d'une perte de chiffre d'affaires qui était de moins 50%. On l'a passé à moins 30%. Ça, c'est une petite victoire, on va dire, parce que ça permettra de toucher davantage d'entreprises. Il y a des dispositifs qui avaient été calibrés en fonction de délais d'indemnisation d'assurance prévus qui étaient beaucoup plus courts. Et là, aujourd'hui, et c'est un des messages que j'ai passé à Paris, c'est qu'il y a certaines aides qui vont devoir être revues en fonction du délai que prennent les assurances pour indemniser. C'est le cas du prêt à taux zéro, par exemple, et évidemment du dispositif le plus important, le chômage partiel, qui, pour nous, avoir de la visibilité que sur 2 mois, ça n'est pas possible. Il faut qu'on ait une visibilité beaucoup plus longue sur ce dispositif.
La présidente du MEDEF-NC qui met en garde contre une crise à bas bruit, avec de nombreuses entreprises en très grande souffrance, dit-elle, qui pourrait s'effondrer si la relance n'est pas là.
Une interview de la présidente du MEDEF-NC à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Et toujours au sujet de la reconstruction, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie procédera en début d'après-midi à l'installation de la commission des forces vives, prévue par le plan quinquennal réclamé à l'État, adopté à l'unanimité pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Ce comité interinstitutionnel va réunir la présidente du Congrès, le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province, le président du Sénat coutumier, le président du Conseil économique, social et environnemental, les parlementaires, les associations de maires ainsi que les présidents des groupes politiques du Congrès, mais aussi les 3 chambres consulaires, le MEDEF-NC, la CCI et la Chambre d'agriculture et de la pêche, ainsi que les organisations syndicales représentatives en Nouvelle-Calédonie. L'actualité politique maintenant, et comme tous les lundis sur Radio Rythme Bleu, c'est la chronique de la semaine écoulée, et on retrouve Elisabeth Noir.
Ce qui s'est passé à Koumac est une véritable hérésie. C'est un choix de mots étonnant de la part de Charles Wachetine, l'un des porte-parole du Palika, pour qualifier le pseudo-congrès du FLNKS qui s'est réuni fin août. Un congrès qui a intégré une myriade de petits partis indépendantistes, qui a nommé Christian Théin président du FLNKS et qui s'est réuni sans la participation du Palika et de l'UPM. Une hérésie, c'est une pensée émise au sein de l'Église catholique et condamnée par elle. Et quand un parti marxiste en est réduit à utiliser le vocabulaire de l'Église, c'est sans doute que l'heure est grave. Suffisamment, on l'a bien compris, pour que le Palika envisage de quitter le FLNKS. Un FLNKS noyauté, un FLNKS phagocyté, pour reprendre l'acte d'accusation de Charles Wachetine, qui parle aussi de coup de force et de camoufler pour lui ce qui n'arrive pas à endiguer les phénomènes de violence orchestrés par la CCAT qu'elle a elle-même créé. Le réquisitoire est violent et on ne voit pas ce qui pourrait réconcilier les frères ennemis du front si l'objectif de la cellule de coordination des actions de terrain était de déconsidérer le camp indépendantiste et de faire exploser le FLNKS. Elle aura réussi sa mission. Les indépendantistes ont déjà perdu la présidence du Congrès et le Palika le déplore. Mais c'est l'ensemble de la coalition indépendantiste qui risque d'être discréditée si elle ne prend pas clairement ses distances avec la violence insurrectionnelle déclenchée au mois de mai. Comment peut-on imaginer d'inviter autour de la table des négociations un parti dont le président est incarcéré et soupçonné d'être à la tête d'une organisation criminelle ? Les avocats du FLNKS l'ont constaté à leurs dépens. Leur agitation pour obtenir le dépaysement de la procédure qui vise les commanditaires présumés des émeutes semble avoir fait long feu, même s'ils ont saisi la Cour de cassation. On retrouve d'ailleurs la stratégie de la division blindée d'avocats métropolitains qui sévissait déjà dans les années 80 et dont Maître François Roux est aujourd'hui le seul survivant. Il ne se renouvelle pas, même s'il a su entraîner dans son combat de nouveaux défenseurs. C'est dans ce contexte que se prépare le 24 septembre, date redoutée si l'on est, depuis que plusieurs voix se sont fait entendre pour évoquer une déclaration unilatérale d'indépendance qui interviendrait ce jour-là. L'expression en elle-même ne veut rien dire. Et la plus grande confusion règne autour de ces annonces. Daniel Goa avait parlé du 24 septembre 2024, mais depuis l'UCE affirme que l'on avait mal compris et qu'il s'agissait du 24 septembre 2025. Quant au leader du Conseil coutumier Hippolyte Sinewami, qui voulait organiser une grande manifestation à Balade pour proclamer ce jour-là la déclaration unilatérale de souveraineté des chefferies, il a revu ses ambitions à la baisse et il se contentera d'une cérémonie dont on ne comprend pas bien la portée, chez lui, à Marais. Mais il n'en fallait pas plus pour inquiéter une population calédonienne déjà traumatisée par le 13 mai. Eh bien, ce sera un 24 septembre, sous haute surveillance. Le haut-commissaire qui s'appuie sur un dispositif de 7000 personnes de la sécurité intérieure, du jamais vu, a décidé d'un durcissement du dispositif de sécurisation et il prévient qu'aucun trouble à l'ordre public ne sera toléré pendant le long week-end du 24 septembre. Nous pourrons donc célébrer tranquillement la fête de la citoyenneté qui marque désormais la date anniversaire du rattachement de la Calédonie à la France. Je ne sais pas s'il cœurissera, mais perturber ce jour-là, ce serait là aussi une véritable hérésie.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que vous retrouverez d'ailleurs en podcast sur notre site internet le www.rrb.nc. Elle sera également à réécouter à 16h cet après-midi sur Radio Rythme Bleu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et avant de refermer cette page, c'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous le durcissement des mesures de couvre-feu et de vente et de transport d'alcool décidées par le haut-commissaire pour le long week-end du 24 septembre ? Si vous approuvez ce durcissement, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En attendant, il est 11h passé de 43 minutes. On marque une première pause publicitaire dans ce journal avant l'actualité en métropole et dans le monde, et notamment Donald Trump qui a très vraisemblablement été victime d'une nouvelle tentative d'assassinat.
Toute l'info en trois lettres, RRB. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Et cette question, Donald Trump a-t-il de nouveau échappé à une tentative d'assassinat ? En tout cas, le FBI enquête après une fusillade qui s'est produite sur le parcours de golf de l'ancien président américain. Donald Trump n'a pas été blessé et un suspect a été arrêté, Gilles Ménage.
Le candidat républicain à l'élection présidentielle était sur le parcours qui lui appartient en Floride lorsque, entre les trous 4 et 5 du parcours, des coups de feu ont éclaté à proximité de lui. Aussitôt mis en sécurité, Donald Trump est sain et sauf et les autorités locales se sont saisis de l'enquête. D'après les premiers éléments, le suspect a été repéré grâce au travail d'anticipation des services secrets. Rick Bradshaw est le shérif du comté de Palm Beach.
In the bushes where this guy was is an AK-47 style rifle with a scope.
Dans les fourrés où cet homme se cachait, nous avons trouvé un fusil d'assaut AK-47 avec une lunette de visée. Les agents des services secrets qui étaient sur le parcours ont fait un travail fantastique. Ce qu'ils font, c'est qu'ils précèdent l'ancien président sur tous les trous du parcours. C'est comme ça qu'ils ont repéré le canon de cette arme qui sortait de la clôture et qu'ils ont immédiatement fait feu, ce qui a fait fuir l'assaillant. Donald Trump se trouvait à peu près à 250 mètres du suspect, a précisé le shérif du comté de Palm Beach. Aperçu par plusieurs témoins lors de sa fuite, l'homme a laissé de nombreuses traces derrière lui, notamment une GoPro, caméra GoPro, avec laquelle il avait l'intention de filmer toute la scène. Il y a quelques heures, un suspect a été arrêté. Il est actuellement interrogé par le FBI. De son côté, la candidate démocrate Kamala Harris s'est dit soulagée de savoir Donald Trump sain et sauf. La violence n'a pas sa place en Amérique, a écrit sur X la vice-présidente des États-Unis.
Et puis dans la région, une tuerie vient de faire une vingtaine de morts dans la région des Hauts Plateaux en Papouasie. Un drame qui survient une semaine après la visite du pape François dans le pays. Il avait appelé à ce que cessent les violences tribales. La correspondance ce midi de Jean-Pierre Zajac.
La tuerie s'est produite dans la province d'Enga, à proximité immédiate de la mine d'or de Porguera. Un affrontement armé entre deux clans rivaux d'orpailleurs clandestins s'y est soldé par la mort d'au moins 20 personnes. Les cases de nombreux habitants de la région ont également été incendiées. Les opérations à la mine de Porguera ont été immédiatement suspendues. Le commissaire Manning, directeur de la police papou, a autorisé l'usage de la force létale et le déploiement de policiers supplémentaires afin, a-t-il dit, de protéger les infrastructures critiques et les villageois qui sont terrorisés et attaqués par des mineurs illégaux. Il a aussi instauré le couvre-feu dans la région. Aucune exception ne sera tolérée, a-t-il précisé. Nous ne laisserons pas le terrorisme s'infiltrer dans la vallée de la Porguera, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
L'actualité en métropole à présent avec tout d'abord ce rassemblement d'hommage à Grenoble. Un millier de personnes étaient rassemblées la nuit dernière pour rendre hommage à Lilian Dejean. Cet agent municipal a été tué par balle il y a une semaine par un chauffard. L'homme qui venait de provoquer un accident lui a tiré dessus à deux reprises. Émotion, évidemment, du côté de la population.
Tout le quartier dans lequel il a grandi, et là, on est solidaires. Lilian, il portait ces valeurs-là, la solidarité, l'entraide. C'était un vrai gentil et il était tourné vers les autres.
Ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement courageux, d'extrêmement altruiste. Et c'est important qu'on lui rende hommage à la hauteur de l'homme qu'il était dans cette mort complètement injuste.
Il répondait toujours présent, toujours dans la bonne humeur. C'est terrible en fait de perdre une personne que l'on aime. L'incompréhension surtout, je pense qu'on n'y croit toujours pas en fait. Cette personne, elle aurait pu partir. Elle aurait pu faire mille choses que de tirer en fait sur Lilian.
Et toujours à Grenoble, une nouvelle fusillade a fait deux blessés, dont un qui a reçu une balle dans la tête. D'après la police, les auteurs des tirs sont deux individus qui ont utilisé un fusil d'assaut. Ils sont en fuite et leur véhicule a été retrouvé incendié. Toujours en métropole, des traversées meurtrières dans la Manche. 8 personnes sont mortes lors d'un naufrage d'une embarcation clandestine de fortune. Le drame a eu lieu à Ambleteuse, dans le Pas-de-Calais. Les précisions de Maximilien Carlier pour Europe 1.
Peu avant minuit, départ d'un Zodiac de mauvaise qualité et surchargé. À l'intérieur, une soixantaine de migrants, seule une dizaine avec un gilet de sauvetage. Avarie moteur ou courant trop fort, le bateau de fortune s'échoue rapidement, s'écrase même sur les rochers à Ambleteuse. Les secours interviennent. Jacques Billan, préfet du Pas-de-Calais.
Malgré les tentatives de réanimation, ce sont donc 8 personnes qui ont été déclarées décédées. Il s'agit d'hommes apparemment majeurs. Les 51 autres naufragés ont par ailleurs été pris en charge, dont un nourrisson de 10 mois en hypothermie. Les naufragés seraient originaires d'Érythrée, du Soudan, de Syrie, d'Afghanistan, d'Égypte et d'Iran.
Une enquête a été ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer. Il y a moins de 2 semaines, 12 personnes sont décédées alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Angleterre. Les tentatives se multiplient quand la mer est calme et la météo favorable. La Manche compte ses morts, 45 décès en 2024, année la plus meurtrière.
Et dans ce contexte, faut-il, comme l'Allemagne, rétablir les contrôles aux frontières en France? Selon un sondage pour Europe 1, CNews et le JDD, les Français y sont majoritairement favorables à hauteur de 77%. Le contrôle des frontières, Jordan Bardella en a parlé lors de la rentrée parlementaire du Rassemblement national. Le président du parti et Marine Le Pen se sont exprimés devant les 126 députés du groupe et Jordan Bardella a fixé le cap en matière d'immigration.
C'est la possibilité de rétablir des contrôles aux frontières, ça existe dans le code Schengen. La France l'a fait à plusieurs reprises depuis 2015, ça n'a jamais empêché les travailleurs frontaliers de passer la frontière. Mais un pays qui est libre et un pays souverain est un pays qui maîtrise ses frontières. Or, je pense que le rétablissement de contrôles aux frontières dans un certain nombre d'États, et notamment en Allemagne, est la conséquence directe de la poussée des partis patriotes lors des dernières élections européennes. Je pense que les Français ont parfaitement compris quel était le sens d'un contrôle aux frontières. Et si l'Allemagne le fait, qui n'est peut-être pas le plus petit pays de l'Union européenne et arrive à mettre en place ces contrôles, c'est que ces contrôles sont nécessaires. Le défi migratoire est peut-être le plus grand défi qui va se poser aujourd'hui à la France et à l'Europe. Et moi, je veux que la France reste la France et qu'elle puisse maîtriser ses frontières.
Le Rassemblement national a établi sa stratégie au cours de cette rentrée parlementaire. Il veut poursuivre la campagne en occupant le terrain afin de préparer l'alternance puisqu'il milite pour de nouvelles élections législatives anticipées dès l'année prochaine. Il est 11h51, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment des incendies qui sévissent toujours dans le Nord.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
Protégez-vous des intrusions avec la quincaillerie calédonienne. Ronces concertina, épinoches, cadenas pour grilles, chaînes anti-vol, targettes à combinaison, projecteurs à détecteurs et bien d'autres produits en magasin. Rendez-vous à la quincaillerie calédonienne à Ducos, 13 rue Ampère. En savoir plus sur Facebook.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag, on retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie avec le gouvernement tout d'abord qui condamne avec la plus grande fermeté l'incendie ce week-end des infrastructures des clubs de rugby et de football de Dimbéa. L'exécutif parle d'actes de délinquance inacceptables qui, en plus de porter atteinte à la jeunesse cherchant à s'épanouir par la pratique du sport, prive la population de ces lieux où s'exprime le vivre ensemble. L'exécutif rappelle qu'il s'agit du second épisode de dégradation que subissent ces installations alors que les entraînements et les compétitions avaient pu reprendre grâce notamment à l'engagement des bénévoles qui les gèrent. Les membres du gouvernement tiennent à apporter leur soutien aux responsables et adhérents des clubs touchés par ces exactions ainsi qu'à l'ensemble du monde sportif calédonien. Un week-end compliqué également pour les pompiers du SIVM Nord. Depuis vendredi, Léana Colombo, ils font face à de nombreux incendies.
Et oui, à commencer par l'important feu de brousse sur la sortie nord de Koumac, au niveau de l'aérodrome qui brûlait ce week-end. Même si l'incendie est désormais maîtrisé, l'effort vent sur zone complique le travail de reconnaissance des pompiers. Deux centrales solaires ont été menacées, mais n'ont finalement pas subi de dégâts. À Koumac, toujours au centre du village, on notera un feu à répétition depuis une semaine près du cimetière. La gendarmerie enquête pour connaître les auteurs des faits. Et ce week-end aura également été marqué par plusieurs incendies accidentels, mais également de feux d'engins. Une augmentation du nombre d'incendies qui inquiète l'adjudant Kevin Leclerc, adjoint au chef de corps du SIVM Nord.
On a une recrudescence. De toute façon, on ne va pas pouvoir le nier. Sur les statistiques de nos interventions, on voit bien que depuis plusieurs semaines, là, ça brûle de plus en plus tous les jours. Donc, que ce soit le nombre d'interventions ou le nombre d'hectares, c'est en train de grimper en flèche là depuis quelques semaines. À savoir l'origine, donc ça, je laisserai cette partie-là aux gendarmes. Mais clairement, au vu de la météo, c'est pas la foudre qui est tombée et qui a déclenché ces feux-là. Donc, moi, j'appellerai surtout les civils, la population à être très attentive et nous signaler les feux le plus rapidement possible et surtout s'ils voient des personnes mettre le feu, de ne pas hésiter à donner des renseignements, même si on pense que l'information a déjà été donnée, ne pas hésiter à rappeler la gendarmerie pour les aider dans cette mission parce que là en ce moment ils recherchent et plus il y a des départs, plus c'est difficile de savoir d'où ça vient, quoi.
L'adjudant Kevin Leclerc qui tient également à souligner la solidarité dont fait preuve la population du Nord envers les pompiers depuis ces quelques semaines sous tension.
Des incendies qui interviennent dans un contexte d'importante sécheresse, mais le manque d'eau engendre d'autres conséquences, Léo Fichou.
Et oui, effectivement, comme on le disait, les départs de feux sont nombreux, mais ce qui préoccupe aussi, c'est le déficit en eau qui touche une grande partie du nord de la Grande Terre. Plusieurs communes ont décidé, suite au communiqué du syndicat intercommunal à vocation multiple VKP, de prendre des mesures restrictives en matière de distribution. Arnaud Banfi est directeur du Sivom VKP, qui est notamment en charge de l'eau potable. Il explique qu'il existe encore des solutions pour éviter le pire.
Il est important que chacun évite les gaspillages dès aujourd'hui pour justement essayer de préserver un petit peu cette ressource. Pour l'instant, on est vraiment encore dans une étape de sensibilisation, donc c'est vraiment la chasse au gaspillage. On ne demande pas aux gens de rationner leur utilisation de l'eau, mais plutôt d'éviter toutes les consommations d'eau qui pourraient être inutiles. Donc on pense notamment aux fuites, on pense au lavage à grandes eaux, on pense aux arrosages à grandes eaux. Voilà, essayer de rationaliser ça et d'essayer d'avoir des bonnes pratiques pour limiter les gaspillages. La partie restriction viendra si la situation se complique dans un deuxième temps avec la prise d'arrêtés communaux sur les restrictions des usages d'eau, mais on n'en est pas là aujourd'hui, mais ça pourrait arriver assez rapidement.
Le comité de sécheresse VKP, qui inclut notamment le gouvernement, la province Nord et les mairies, doit se réunir vendredi pour statuer sur la situation et envisager des mesures de restriction de l'eau. Et
toujours dans le Nord, Enercal ferme deux agences sur la côte Est jusqu'à demain en raison d'incivilités. Il s'agit des agences de Pointe-d'Imier et Wailou. Sur ses réseaux sociaux, Enercal annonce une multiplication mais aussi une gravité croissante des actes d'incivilité. Ils compromettent la sécurité des salariés ainsi que la qualité des services. Depuis samedi, les bus Taneo circulent de nouveau partiellement. Les transports en commun étaient à l'arrêt depuis le 13 mai. Et à la gare routière de Nouméa, des dizaines de Calédoniens attendaient leur transport avec impatience ce matin. Et de l'avis général, cette remise en circulation des bus est un soulagement.
Là, c'est la première fois encore qu'on reprend le bus. Je suis venue à pied, du coup, là, je prends le cap pour le retour, pour aller à Moravelle. Du coup, voilà, c'est bon, c'est un soulagement quand même. Hein. Surtout pour les vieux à nous. Maintenant, il faut qu'eux rentrent dans nos quartiers. C'est à nous aussi de nettoyer nos quartiers pour qu'eux puissent rentrer.
Là, je pars de Moselle pour aller jusqu'à Dembiasson. À pied, je mettais 1h30 ou genre, voire 2h. Maintenant, en bus, je pense que ça prend 30 minutes. Là.
Moi, je vais à Nouville, là-bas, voir ma sœur, elle est malade. C'est un peu pour nous, parce que nous on ne peut pas marcher, on marche toujours, Moi, je reste à Rivière-Salée, mais je marche le matin, je marche pour aller à Bellevue. Marcher après, il faut retourner à pied. Mais là, c'est bon. Sinon, il y a des taxis, mais c'est cher, les taxis.
Et une reprise qui a fait réagir ce week-end, car il s'agit d'une décision unilatérale du GIE Carouya, qui s'est faite donc sans le feu vert du SMTU. Dans un communiqué publié ce week-end, la présidente du syndicat mixte des transports urbains, Naya Wateo, déplorait que cette tentative de passage en force pour assurer son chiffre d'affaires se fasse au détriment de populations qui ont besoin de se déplacer en sécurité. Pour rappel, depuis le 13 mai, le réseau de transport a subi plus d'1 milliard de francs de dégâts. Soulagement pour les habitants du Mont-d'Or-Sud. Les navettes maritimes entre Nouméa et le Vallon d'Or sont maintenues cet après-midi. Pour de nombreuses personnes, ces rotations maritimes sont l'unique moyen de transport pour sortir de leur secteur isolé depuis 4 mois maintenant. Seulement voilà, la rotation des bateaux est soumise aux aléas climatiques. Ce matin encore, la province sud annonçait une annulation des rotations après 11h. Concernant la journée de demain, le doute plane encore. Une inconnue à l'équation qui impacte fortement le quotidien de ces Mont-Doriens.
Tout va bien jusqu'à qu'ils ferment aujourd'hui et demain, quoi. Ça impacte beaucoup les habitants du Mont d'Or. Ben là, comme je pars en repos, donc c'est chance pour moi, mais pas pour d'autres.
Nous, on est obligé de demander à nos patrons de finir plus tôt pour anticiper. Comme apparemment, les navettes finissent à 11h. Du coup, là, à 9h30, on est rentré 2h plus tôt, quoi. Obligé d'arranger nos horaires. Demain, on ne sait pas encore. On a un chantier de prévu, mais on ne sait pas. On ne va peut-être pas aller, en fait.
Il me raconte qu'il reste dormir sur les tables du bout du monde. Ils dorment comme ça directement ou dans les coins qu'ils trouvent à la baie de la Moselle. Ils n'ont pas forcément de la famille sur Nouméa ou un point de chute. Donc, ils restent comme ça, puis ils attendent. Ils attendent le matin pour reprendre le bateau.
Je peux juste dire que on patiente et avec la conscience que ça peut durer encore longtemps.
Et les conditions météorologiques permettent finalement une rotation des navettes jusqu'à la fin de journée aux horaires habituels. concernant le trafic pour demain. Le site internet de la province sud devrait être normalement mis à jour ce soir. Toujours du côté des transports, noté Kerkalin, décalé d'une journée l'ouverture de la billetterie pour la nouvelle ligne Nouméa-Bangkok-Paris. Les premiers billets seront à vendre à partir de demain. Quant au premier vol, il sera opéré le 11 décembre. Et puis nous sommes en pleine semaine de l'écomobilité, notamment en province nord. Les élus et les agents de l'hôtel de province ainsi que l'école de Pointe-Boute sont mobilisés depuis ce matin. Ils ont notamment emprunté les circuits Vélibus et Pédibus pour rejoindre les bancs de l'école ou encore l'hôtel de province. L'objectif est d'encourager les déplacements doux et alternatifs à la voiture, mais aussi de créer un moment de partage entre les enfants et les adultes. Malia Dasneves est chargée de mobilité durable à la province nord.
Il faut savoir que dans le bilan carbone de la collectivité, les déplacements des personnes représente près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est de se dire, en tout cas sur les déplacements sur lesquels on a une action, ça veut dire les déplacements domicile-travail, ben, on peut agir parce qu'on peut changer nos modes de déplacement, on peut éviter certains déplacements, par exemple l'aller-retour chez soi pour le déjeuner de midi, et voir un petit peu comment réfléchir les déplacements de façon différente. C'est beaucoup autour de ce qu'on appelle les modes doux, donc les déplacements à pied et à vélo, qui peuvent être des déplacements alternatifs à la voiture sur un certain périmètre, forcément quand les gens habitent pas loin. Donc l'intérêt, notamment sur l'hôtel de la province nord, c'est qu'on a beaucoup d'agents et finalement pas mal de personnes qui habitent à moins de 5 km, donc ils peuvent venir à pied ou à vélo. Donc il y a des pédibus, des vélibus qui sont proposés. On propose également aux agents d'emprunter pour la semaine des vélos pour faire leurs déplacements testés et éventuellement pouvoir après s'acheter un vélo pour ceux qui n'en ont pas.
Et la semaine de l'écomobilité se tient donc jusqu'au 20 septembre. Des activités qui s'inscrivent également dans le mois du climat qui commence aujourd'hui et qui va durer jusqu'au 18 octobre prochain en province nord.
À Radio Rythme Bleu, il est midi et 8 minutes.
Et enfin, un hommage, les obsèques de Jacques Lucien, le dernier vétéran des forces navales de la France libre, seront célébrées cet après-midi au centre funéraire de Nouméa-Gilménage.
Jacques Lucien, engagé volontaire à 16 ans, membre des équipages d'escorte des navires marchands dans l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale, est décédé en fin de semaine dernière à l'âge de 100 ans. Cet après-midi, un hommage lui sera rendu par le délégué de la France libre en Calédonie, Michel Mourguet, extrait.
Donc Jacques Lucien, titulaire de la Croix des combattants volontaires et de la médaille des services volontaires de la France libre, ne nous a pas quittés. Il est allé rejoindre ses compagnons tombés au champ d'honneur pour la liberté de notre patrie, la France. Il est présent dans nos cœurs et dans nos mémoires. Et souvenons-nous qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Merci Monsieur Lucien, merci Jackie. Dernier Français libre calédonien, honneur à vous.
Après Cathy Varty et Maurice Meunier, Jacques Lucien était le tout dernier calédonien français libre encore vivant. Il avait fêté son 100e anniversaire le 5 mai dernier en présence des 7 branches franco-australiennes de sa très nombreuse famille.
Merci Gilles Ménage. Il est midi passé de 2 minutes, on marque une nouvelle pause dans ce journal.